15 minutes, une émission présentée par Marie-Alice Godot.
Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Un quart d'heure dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui ravis d'accueillir Stanislas Collodier, co-commissaire de l'exposition Souffle, actuellement présentée au Musée national du Cambodge. Une exposition que vous pouvez découvrir du 10 juin au 30 septembre 2022. Alors tout d'abord, Stanislas, bienvenue au sein des locaux de l'Institut français et nous allons commencer par un petit mot de présentation. Donc Stanislas, vous êtes conservateur du patrimoine et directeur du CIRVA, le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, à Marseille depuis 2019. Vous êtes donc co-commissaire de l'exposition Souffle, actuellement présentée ici au Cambodge. Alors Stanislas, bienvenue.
Bonjour.
Donc vous êtes conservateur du patrimoine, directeur du CIRVA. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce centre ?
Oui, alors effectivement, c'est assez rare un conservateur qui dirige un centre d'art. Donc le CIRVA, c'est effectivement non pas un musée, avant je travaillais dans un musée, mais c'est un lieu de création. Et ce lieu de création, il est assez exceptionnel. J'ai même l'habitude de dire qu'il est unique au monde, et c'est le cas d'une certaine manière, puisqu'il est dédié à un matériau, le verre, et il permet donc à des créateurs qui ne connaissent pas ce matériau, qui ne savent pas le travailler, le manipuler, d'avoir l'opportunité de travailler avec ce matériau grâce à l'aide de mes collègues, qui sont donc des techniciens verriers extrêmement qualifiés et qui vont donc accompagner des artistes, des designers dans des projets de recherche. Alors pour le présenter, le CIRVA, c'est intéressant de refaire son histoire, surtout dans le cadre d'une émission dédiée aussi à la France, à la francophonie, puisque je dis souvent que le CIRVA, c'est un petit peu le mariage de Louis XIV et de Jack Lang, puisque il est vraiment l'héritier d'une tradition très française qui associe la question de la diplomatie, la question du rayonnement de la France à ce qu'on appelle l'ingénierie culturelle. Et donc effectivement, j'ai dit Louis XIV, c'est pas une blague, parce que Louis XIV, avec son ministre Colbert, c'est eux qui inventent le modèle des manufactures. Et il y avait un enjeu économique à l'époque, puisque les nobles français consommaient beaucoup de tapisseries venues des Flandres, et donc c'était beaucoup d'argent qui était dépensé à l'étranger plutôt que d'être dépensé en France. Donc à ce moment-là, le colbertisme, ça consiste à dire, mais non, on va produire français. Et donc là, il y a eu vraiment un petit peu le point de départ sous la monarchie de cette idée, en fait, d'avoir des artisans. Alors à l'époque, ils n'étaient pas fonctionnaires, mais des artisans dont l'installation a été facilitée par le pouvoir royal en France pour produire des produits artisanaux, mais qui étaient surtout des produits de luxe, d'extrême qualité, et d'associer ces artisans au travail des artistes, puisque le directeur de la manufacture des Gobelins, c'était Lebrun, donc c'était le peintre du roi. C'est pareil, lui, c'est pas quelqu'un qui savait, il n'était pas lissier, il ne savait pas réaliser une tapisserie, il était peintre, mais il proposait des modèles. Il avait une compétence dans ce qu'on appelle aujourd'hui finalement plutôt l'esthétique. Voilà. Et dans les années 80, donc bien plus tard, 1980, il y a un ministre qui a été un ministre fondateur dont l'empreinte est toujours aussi importante aujourd'hui sur le paysage culturel français, qui est Jack Lang. Et les années Jack Lang, les années 80 sous Mitterrand, ça a été vraiment un moment d'ébullition, de bouillonnement, d'effervescence. On s'est intéressé à des tas de domaines de la culture qui étaient un petit peu endormis. Et donc le verre en a fait partie. Et il y a eu cette idée de créer voilà, un centre qui soit un lieu pour la défense de ces savoir-faire, parce que évidemment aussi, ces savoir-faire, ils demandent beaucoup de temps de travail, ils sont extrêmement coûteux, ça coûte très cher de travailler le verre, parce que Il y a de nombreux équipements qui interviennent. Donc nous, au Cirva, on a beaucoup de fours. Puis aujourd'hui, ça fonctionne avec de l'énergie. Donc évidemment, on est confronté à la question de la hausse des énergies qui un petit peu bouscule l'économie mondiale. Puis c'est aussi un travail collectif, donc plusieurs artisans en même temps, et un travail extrêmement qualifié. Donc tout ça, évidemment, ça fait que c'est très coûteux. Aujourd'hui, le verre qui est aujourd'hui sur la table devant nous, il a été réalisé de manière industrielle et avec des process assez standardisés et peu coûteux. Mais si ce verre devait être réalisé à la main, bien évidemment, le coût de fabrication serait élevé et peut-être que tout le monde n'est pas prêt à payer 50 euros pièce un verre. Si vous avez beaucoup d'amis et que voilà, vous faites une soirée, vous êtes 12, ça commence à vous faire un budget rien que pour les verres. Après, il faut rajouter les assiettes, etc. Donc tous ces savoir-faire, un petit peu au moment où l'industrie s'est développée aussi, ils ont commencé à péricliter. Les petits ateliers qui avaient l'habitude de faire une production qui continuait à être achetée, parce que aussi c'était d'autres modes de consommation. Si on revient aussi au 19e, début 20e, on achetait des choses pour la vie. Mais aujourd'hui, où il y a des modes, les choses sont plus jetables. Alors tout ça, heureusement, c'est en train de changer. Mais voilà, il y a beaucoup d'ateliers qui ont fermé. Et donc, le Cirva, il a été créé à un moment aussi sous Jack Lang où il y a une prise de conscience que tous ces savoir-faire, ils pouvaient disparaître, parce que c'est ce qu'on appelle du patrimoine immatériel, c'est-à-dire des savoir-faire qui sont ancrés dans des gestes, et c'est l'inverse du patrimoine matériel. Le patrimoine matériel, c'est des objets, c'est physique. L'objet, vous pouvez le mettre dans un musée, derrière une vitrine, il sera toujours là. Le savoir-faire, si vous ne le transmettez pas de génération en génération, il peut disparaître. Et donc le Cirva, il a été créé pour permettre justement à des artisans verriers de continuer à travailler, mais dans un contexte assez original qui est la collaboration avec l'artiste, avec le designer. Et ça, c'est aussi un des fondamentaux du Cirva, c'est la question de la rencontre et du dialogue entre un technicien qui a un savoir-faire extrêmement précis et puis un artiste qui est très créatif, qui a beaucoup d'idées et qui va aussi bousculer le technicien, le sortir de ses limites. Mais le technicien, lui aussi, va bousculer l'artiste, parce que des fois, il va lui dire « Mais non, mais ça, c'est pas possible. Ça, on peut pas le faire. T'as l'impression que le verre, c'est très fluide, c'est facile à manipuler, mais en fait, il y a beaucoup de contraintes. » Et donc, c'est vraiment des collaborations très belles qui se déroulent dans ce centre d'art. C'est des histoires humaines assez profondes, quoi.
Bien. Merci pour cette explication. Effectivement, donc le Cirva a une histoire riche et aussi, du coup, j'imagine, un futur certain, j'espère. Et donc, vous êtes co-commissaire de l'exposition Souffle présentée ici au Cambodge. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus ?
Oui, alors, Souffle, on peut déjà commencer par parler de son titre. Pourquoi Souffle ? Évidemment, parce que c'est un élément qui est central dans le travail du verre. Le verre est soufflé. Alors, ce n'est pas la seule technique, mais c'est la technique la plus connue. Le souffleur de verre, on pense tout de suite à Venise, Murano. Et c'est vrai que c'est assez fascinant quand on voit ces formes, de penser que ces formes, finalement, elles sont moulées de l'intérieur et non pas de l'extérieur par un moule. Elles sont moulées de l'intérieur par le souffle de l'homme. Donc, c'était déjà d'ancrer un petit peu ça dans une technique. Mais aussi, c'est une exposition qui réunit 10 designers qui sont tous lauréats d'un concours, un concours de design qui est organisé par un autre centre d'art qui s'appelle la Ville Lannoy, qui est également dans le sud de la France, dans le Var, à Hyères. Et les lauréats de la Design Parade, ils sont invités en résidence au Cirva et également d'ailleurs dans une autre manufacture, je vous parlais des manufactures, qui est la manufacture de Sèvres, donc à côté de Paris. Et l'idée de cette exposition, déjà, c'était de fêter les 10 ans de ce partenariat en réunissant les 10 designers qui étaient passés par le Cirva à travers les 10 projets qu'ils y avaient menés. Et l'idée, c'était de se dire qu'on avait peut-être un échantillon assez représentatif de la crème du design en Europe. Et donc, Souffle, c'était aussi ça. C'était l'idée... un petit peu d'un nouveau souffle, d'une génération de gens assez jeunes qui étaient porteurs d'idées nouvelles. Et voilà, c'est ça aussi, c'est ce souffle-là, le souffle du design. Donc on a réuni en fait les travaux de ces 10 designers. Et ce qui est intéressant, c'est que les designers, quand ils sont lauréats et qu'ils sont invités au Cirva, ils doivent répondre à une commande, ils doivent imaginer un vase. Voilà, ça c'est un petit peu la règle du jeu qui est imposée. Et ce qui était intéressant, c'est aussi un petit peu comme ça que l'idée de l'exposition est née, c'est qu'on s'est dit qu'ils avaient tous travaillé autour du même objet. Et c'est une méthode, même un petit peu dans les sciences humaines, qui est intéressante, presque la méthode inductive, c'est-à-dire on n'allait pas faire une exposition extrêmement ambitieuse avec des centaines d'objets, on se serait forcément perdu pour dire voilà qu'est-ce que c'est que la jeune scène design aujourd'hui, mais on s'est dit si on prend un seul objet et qu'on regarde comment est-ce que 10 designers qui appartiennent à la même génération peuvent penser cet objet, et si on regarde vraiment toutes les différentes mécaniques de pensée, à quoi est-ce que les designers vont s'intéresser ? Est-ce qu'ils vont s'intéresser plutôt à la question du mode de production, de la question de l'usage, la question de la forme, la question de la couleur, la question de la pérennité de ce vase, enfin, de nombreuses questions qui sont aujourd'hui vraiment au cœur de la discipline design et de ce champ-là. Bah justement, à travers cet exemple très précis, on pouvait déduire beaucoup de choses pour comprendre finalement qu'est-ce que c'était que être designer dans la décennie 2010. Voilà, donc ce projet d'exposition, il a d'abord été conçu à Marseille, puisque le CIRVA est à Marseille, et on a la chance d'avoir un partenariat avec les musées de Marseille, avec lesquels on organise une exposition chaque année. Et donc on leur a proposé de travailler tous ensemble, c'est-à-dire aussi en associant la ville de La Noaille, qui est aussi à l'origine de ce prix de design, bien sûr les vases du CIRVA, et un des musées de la ville qui était le musée Borély. Donc le musée Borély, c'est un ancien château, un château néoclassique qui date de la fin du XVIIIe siècle, qui est situé dans un parc magnifique dans lequel il y a des collections d'art décoratif, de mode aussi, textile et de design. Et c'était intéressant évidemment de confronter les pièces réalisées au CIRVA très récentes avec les pièces historiques, patrimoniales, conservées dans un musée. Et aujourd'hui, l'exposition voyage et le contexte il change, il modifie aussi la perception de l'exposition. Et évidemment, le nouveau contexte qui nous est proposé, Musée national du Cambodge, c'est un contexte formidable parce que là, on change de culture. Donc, nos vases design, ils résonnent aussi autrement, confrontés aux formes d'un autre pays, et puis surtout qui nous viennent de loin géographiquement, enfin qui ont été produites dans un contexte très éloigné de celui du CIRVA, mais aussi très éloigné dans le temps, parce que là, à nouveau, il y a des pièces archéologiques.